C'est 23.
Bienvenue à la commission Normando-Ferrandez.
Vous avez peut-être entendu l'entrevue tantôt avec Katia Gagnon au sujet de cette enquête qui a permis de découvrir que des gens qui sont sous la responsabilité du curateur public sont quand même dans la rue. Donc, des gens qui sont vulnérables, probablement les plus vulnérables de la société, qui ont des problèmes multiples de déficience, d'adaptation à la société. Et finalement, personne autour d'eux pour s'en occuper. C'est le curateur qui doit gérer. Est-ce qu'on blâme le curateur pour ces itinérants qui, normalement, ne devraient pas être dans la rue comme ça? Luc?
Non, je pense pas. Je pense que c'est tout le système de traitement de la santé mentale qui est coupable, désorganisé. Tu sais, on connaît bien le système de santé, on en parle presque tous les jours dans les médias. On sait combien c'est difficile dans le système de santé parce qu'il y a un problème d'accès, il y a un problème de capacité de recevoir. Mais une fois que les gens sont reçus dans les hôpitaux, là, ça tourne assez rondement. Tu sais, il y a une qualité de soins, il y a une qualité d'intervention, il y a un encadrement des interventions. Dans le système de santé mentale, c'est le contraire. C'est un système... À l'opposé du système de santé. Alors, il faut comprendre que les gens, ils pensent peut-être que les hôpitaux psychiatriques, il y a des hôpitaux psychiatriques, comme avant, tu sais, où il y a des endroits où tu peux mettre les gens qui sont malades, puis on les garde, puis on s'occupe d'eux. Mais ce n'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Les hôpitaux psychiatriques ne gardent pas les malades. Ils sont là pour gérer des crises, faire des plans d'intervention, recalibrer la médication. Mais après ça, on les envoie dans un système de résidence, qui est le système de résidence intermédiaire, ou le système de ressources en accompagnement continu. Puis il y a d'autres variations, là. Mais essentiellement, c'est quoi? Ce sont des maisons gérées par des groupes communautaires ou par des individus qui reçoivent ces gens-là. Puis là, dans ces maisons-là, on ajuste leur médication. On reçoit un plan d'intervention médicale avec des médications à faire, etc. Et si tu vas pas bien dans une résidence intermédiaire qui est l'entrée du système, on va t'envoyer dans une ressource qui a plus de contrôle, plus de médication, qui s'appelle une RAC, une résidence avec des accompagnement continu. Dans ces maisons-là, il n'y a presque pas de soins. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, il n'y en a pas. Il doit y avoir des excellentes maisons. Il doit y avoir des gens qui ont beaucoup de sollicitude pour les malades. Mais il y a aussi des endroits, beaucoup d'endroits, où on ne sait pas quoi faire avec la personne parce qu'elle ne rentre pas dans le moule. Tu sais, tu peux avoir, il y a toutes sortes, dans la santé mentale, là, c'est gigantesque le nombre de diagnostics, là. Déficient moyen avec déficience physique, Tourette, DI profonde, schizo, nomme-les, là. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Puis le seul outil que tu as pour gérer ça, c'est on augmente la médication, on augmente le contrôle. On enlève les draps sur son lit, on enlève les rideaux pour pas qu'il se pende avec ou pour pas qu'il... On l'empêche de se battre avec les autres. On l'isole. Tu sais, ou on augmente les anxiolytiques, on augmente les somnifères. Mais à un moment donné, il y a des gens qui répondent pas à tous ces éléments-là d'encadrement, de contrôle, et qui finissent par se sauver. Mmh. Qui finissent par se sauver puis se ramasser dans la rue.
Nathalie?
Mais là, tu crois pas que si jamais personne n'est responsable de rien, que les choses ne changeront jamais? Tout d'abord, bien, je tiens à dire le bravo aux deux journalistes, Katia Gagnon et Caroline Touzin, pour cet article, parce que c'est un article qui nous permet, inapte et sans-abri, de nous sensibiliser, d'être informés d'une réalité que moi, personnellement, je ne connaissais absolument pas, et pour laquelle, évidemment, jamais le curateur nous a alertés. Mais moi, à ta question, Paul, est-ce que le curateur doit être blâmé? La réponse est oui. Pour trois raisons essentiellement. La première, parce que le curateur contrevient à sa mission, qui est celle de protéger les plus vulnérables de notre société et les plus vulnérables dont ils ont la responsabilité. Deuxièmement, le curateur contrevient à ses obligations légales parce que lorsqu'il est responsable, lorsqu'il obtient un mandat d'inaptitude, qu'une personne lui est confiée, elle l'est confiée par le tribunal. Il y a donc une procédure judiciaire qui entoure le fait qu'une personne se retrouve sous la responsabilité de la curatelle ou du curateur public. La troisième raison revient à un rapport qui a été publié par le vérificateur général du Québec en 2019, un rapport de 43 pages qui était destiné spécifiquement à la façon de procéder du curateur. Et dans ce rapport, et permettez-moi de lire un court extrait, le curateur ne prend pas les mesures nécessaires pour veiller au respect des droits et à la sauvegarde de l'autonomie des personnes qu'il représente. Il y a un problème qui dure depuis des années. Est-ce que le problème, c'est un manque d'effectifs? Il faut se rappeler que le curateur public, c'est 85 millions de budget, c'est 811 employés selon le dernier rapport annuel. Il y a 95 curateurs délégués. Ça, des curateurs délégués, en fait, c'est eux au Québec qui veillent à ce que les plans d'intervention, les plans d'accompagnement, je vais les appeler comme ça, là, soient mis en œuvre pour les personnes comme celles auxquelles réfèrent nos journalistes dans la presse ce matin. Ils sont en moyenne responsables de 131 dossiers chacun. Okay? Est-ce que c'est trop de dossiers? Je pense que la question mérite d'être posée. Fait que Luc, si on dit toujours, puis je comprends ton argument, Luc, c'est de dire, ben ouais, mais là, c'est système, c'est compliqué. Puis t'as raison, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, et en passant, les personnes responsables sous la tutelle du curateur, là, à 41%, ce sont des personnes majeures qui ont des problèmes de déficience intellectuelle et 30% souffrent de maladies mentales. Après ça, viennent les clientèles qui ont des problèmes cognitifs. Donc, santé mentale, déficience intellectuelle, c'est des clientèles majoritaires dont est responsable le curateur. Mais Luc, si on passe notre temps à dire, à pelleter sous le tapis et à trouver des excuses, je me dis, bien, jamais les choses vont changer.
C'est amusant comment tu résumes ma position. Pelleter sous le tapis puis trouver des excuses.
Non, je résume pas. Non, c'est pas ta position, Luc, parce que tu dis que le curateur n'est pas à blâmer. Moi, je dis parce qu'à un moment donné, si personne ne se fait jamais taper sur les doigts, comment les choses peuvent changer?
Je vais préciser ma pensée pour pas qu'elle soit résumée ou caricaturée. Donc, ce que je dis, c'est pareil, je vais faire une analogie. Si dans une école, il y a 50% de taux de décrochage, est-ce que tu dis le directeur de l'école n'est pas bon? Bon, tu peux dire ça si tu veux. Tu peux dire ça. Ah, il est à blâmer, rapport, il n'est pas bon, 50%. Tu peux dire ça. Puis après ça, tu peux regarder c'est qui les étudiants dans cette école-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils sont encadrés? C'est quoi le travail des professeurs? C'est quoi le travail des parents? C'est quoi leur background? C'est quoi leur compréhension de la langue? Quand tu vas dans le détail, tu dis, bien, peut-être que le directeur, il essaye de faire le plus qu'il peut avec les moyens qu'il a. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mauvais directeurs. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que tous les employés de les curateurs sont excellents. Je pense que c'est un système qui est arrivé à sa limite. Il y a des excellents exemples dans ce reportage-là. Par exemple, cette dame, une jeune autochtone, souffre de troubles de santé, troubles de comportement et toxicomanie. Tu ne peux pas avoir plus. Là, un cocktail avec trois très, très graves difficultés. Pour gagner de l'argent pour sa drogue, travailleuse du sexe, plusieurs fois, la police la ramasse tout nue dans la rue. Pourquoi? Parce qu'elle se sauve de clients violents, agressifs, dangereux. Alors, après que ce soit arrivé, soyons bien précis, là, c'est arrivé 60 fois, 60 mais appels enregistrés pour cette jeune femme au 911. Là, on décide qu'on va la mettre dans un centre, on va la contrôler, etc. Au bout de 2 ans dans ce centre-là, on se rend compte que c'est pas les anxiolytiques, puis les somnifères, puis le contrôle, puis la limitation qui va l'aider. Elle est évidemment malheureuse comme une pierre, mais en même temps, elle tourne en rond, elle se dégrade, etc. On dit, bon, le temps est peut-être revenu de la remettre, de lui redonner la liberté. On lui redonne sa liberté, on la retrouve morte quelques mois plus tard. Alors, tu vois, là-dedans, là, c'est qui le coupable? C'est qui le coupable?
Bien, selon la loi, Luc, c'est le curateur public est responsable, était responsable de cette jeune fille qui a fini par être assassinée. L'autre exemple dont il est question dans l'article, c'est par exemple Simon, c'est des noms fictifs, qui a des problèmes à répétition, problèmes de santé mentale, il est violent, il y a un dossier, là, écoute, de plusieurs pouces d'épée auprès de la police. Ce qu'il dit, c'est que moi, je veux juste un logement. Je veux un logement pour essayer de m'en sortir. Je ne veux plus vivre dans la rue parce que, évidemment, la rue entraîne toute une spirale de violence. Alors, moi, ce que je dis, Luc, j'ai entendu un premier ministre durant la dernière campagne électorale faire l'apologie de l'importance de l'imputabilité dans notre société. Rappelle-toi de ça, hein? Il y a des gens, par exemple, ils référaient aux gestionnaires, aux PDG des CIUS, les gestionnaires dans le réseau de la santé, ils vont être imputables. Mais là, je pense qu'on est là. Il y a quelqu'un qui doit être imputable. Par contre, il y a une bonne nouvelle à l'horizon, je crois, c'est qu'il y a une loi qui a été adoptée en juin dernier, le projet de loi 18, qui vise effectivement à mieux protéger les personnes sous la responsabilité du curateur. On veut leur offrir de meilleures mesures de protection qui est adaptée à chacun et chacune. La loi va être en vigueur en juin 2022. Alors, ça, en espérant que la loi permette de changer l'approche et les choses. Mais Luc, ce que tu apportes, effectivement, permet de mettre en lumière, tu as raison, les difficultés qu'on a à s'occuper des plus vulnérables. Puis je me permets rapidement, Paul, un commentaire. On a beaucoup de difficultés dans notre société à venir en aide aux plus vulnérables. Les sans-abri, les personnes sous protection de la curatelle, il y a aussi nos personnes âgées.
Mais puis-je vous relancer? On va défoncer un peu le temps, là, mais sur l'offre de Mike Ward d'offrir...
Mais là...
Non, mais toi, Luc, t'en penses quoi? Moi, je regarde en Allemagne, il y a des projets pilotes, ça ressemble étrangement à ça, là. Pour deux personnes, puis dès qu'ils entrent là-dedans, il y a comme un signal qui est envoyé aux travailleurs de rue. sais, c'est, je sais pas, moi, j'ai toujours ce réflexe de, que j'entends des fois. Touche pas à mes pauvres, là. Viens pas te mêler de la vie de mes pauvres. Je peux pas croire que ça peut pas être utile en quelque part.
Oui, mais ça prendrait des ressources. Écoute, Paul, moi, tu peux pas me poser cette question-là à moi parce que moi, je me méfie de tout. Après 10 ans comme maire, là, je le sais que si tu mets une installation publique dans un parc, par exemple, tu sais, à un moment donné, là, les tubes de béton qu'on mettait dans les parcs, ça faisait comme un petit tunnel, puis les enfants passaient à travers ça. Sais-tu pourquoi on les enlevait?
Non.
Parce qu'on les trouvait tout le temps pleins de déjections humaines. Parce que lorsque, dans les quartiers où il y avait beaucoup de consommation de drogue avec injection, lorsque tu prends de l'héroïne puis que tu t'injectes, souvent, tu vas avoir envie d'aller à la selle. Ben, devine ce qu'on retrouvait dans ces tunnels-là. Alors, tu vois, moi, je me méfie de tout. Tu peux, tu sais, oui, on peut faire ça, mais il faut que ça soit hyper encadré. Parce que ça va donner des résultats. Au bout de 3 semaines, on va. Ah, on n'avait pas vu ce problème-là. Et malheureusement, c'est ça. C'est pas juste la bureaucratie, selon moi.
Bien, c'est moi, je n'en revenais pas de la réponse de la mairesse, là. Je me suis dit, comment on peut fermer la porte à une offre comme celle de Mike Ward, compte tenu que les ressources, effectivement, sont limitées? Il me semble qu'on doit ouvrir ses horizons et dire, c'est peut-être le début d'une nouvelle approche pour accompagner nos personnes qui sont sans-abri. On appelle ça de l'innovation. On ne peut pas penser développer Montréal puis répondre à des problèmes complexes comme ceux de l'itinérance si on est fermé à toute solution. La réponse à mairesse était de dire, ben là, l'itinérance, c'est complexe. On sait tous que c'est complexe, mais à un moment donné, il faut ouvrir, il faut inviter les partenaires de la société, de la ville.
Je suis d'accord avec toi,
Nathalie, là-dessus.
Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, tu sais, moi, j'évoque, je me méfie de tout, je dis que ça prend des encadrements, etc., mais on ne peut pas non plus refuser du revers de la main, là.
Bon, on va faire la pause et au retour, la pâtissière de Jonquière qui est devenue la star de la désobéissance.
Vous écoutez Nathalie Normando et Luc Ferrandez. Vous écoutez la commission Normando-Ferrandez.
Bon, Stéphanie Ariot, qui est pâtissière à Jonquière, a décidé de défier les règles sanitaires et la semaine dernière, elle a ouvert sa pâtisserie, en fait, la salle à manger, qui est toute petite, là. Puis, elle s'est promenée à travers les médias. Hier soir, à Tout le monde en parle. Est-ce que son geste de désobéissance civile est acceptable? Nathalie.
Moi, j'ai envie de te dire, Paul, non. Je sais que ça va faire réagir des auditeurs. Vendredi, d'ailleurs, on a fait l'émission là-dessus. Est-ce que son geste de désobéissance est acceptable? Parce qu'elle dit que c'est une désobéissance pour une bonne cause. Jamais une pâtissière à Jonquière n'aura fait parler d'elle. Tu l'as dit avant la pause. Là, elle est devenue la star de la désobéissance. Je pense qu'on peut dire de Stéphanie Ariot, et je la salue si elle est à l'écoute, qu'elle traduit bien l'humeur ambiante. Cette espèce de lassitude à l'endroit des mesures sanitaires. L'incohérence aussi qui est perçue dans les mesures qui sont mises en œuvre, la rigidité, la sévérité des mesures, tout ça pour éviter que notre système de santé s'écroule. Ça crée de la frustration, ça crée effectivement de la fatigue, et ça, elle le traduit bien. Ce qui me fait dire que son geste de désobéissance n'est pas acceptable, c'est qu'elle a un plan B, Stéphanie. Son plan B, c'est de fermer sa salle, comme tous les propriétaires de restaurants sont obligés de le faire, et d'offrir des mets pour emporter, ce qu'on appelle communément, à bon québécois, le take-out. Elle peut faire du take-out, Stéphanie, mais elle a décidé, pour sauver son entreprise, nous dit-elle, d'ouvrir sa salle à manger en prenant soin de que les règles soient respectées, passeport et masque. Mais malheureusement, elle souffre, beaucoup d'autres restaurateurs souffrent, et si on se met à encourager la désobéissance comme elle le fait, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Là. C'est, pour moi, ça me semble, on peut pas défendre la désobéissance en pareille circonstance.
Moi, je dirais non, mais...
Toi donc, qui es défendeur de loi et l'ordre, la loi et
oui,
l'ordre...
Oui, c'est ça. Non, écoute, tantôt, je vais
Gandhi a fait de la désobéissance civile, quand même.
Pardon?
Ah, ben là, Gandhi a fait la...
Ben oui, c'est vrai. Bon, regarde, moi, je suis...
Comparez pas Gandhi.
Non, je suis tout à fait d'accord.
Ben, elle a un petit genre, quand même, un petit look philosophique. Bon, regarde, premièrement, oui, j'arrive à la même conclusion que toi sur on peut pas encourager la désobéissance, mais il y a des choses qu'elle dit, par exemple, qui nous font... avec lesquelles on ne peut pas être en désaccord. D'abord, un système qui envoie des entreprises à la faillite, c'est pas un système qui peut durer. C'est que c'est une patch. C'est-à-dire que oui, on a dit confinement, etc. Mais quand t'es rendu que des entreprises tombent en faillite et des petites entreprises très valables pour leur communauté tombent en faillite, tu peux pas juste fermer les yeux et puis dire ah que veux-tu, c'est comme ça, c'est la même loi pour tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'elle a une résistance sympathique. T'sais, c'est pas comme le gym de Québec où le gars était sur toutes les tribunes pour dire pas besoin de se faire vacciner, pas besoin de, c'est pas une vraie maladie, etc. Elle n'essaie pas de convaincre, elle s'est conformée aux mesures, elle est double vaccinée, elle vérifie la vaccination des gens qui rentrent, etc. C'est sympathique comme forme de résistance. C'est pas outrancier. Là où elle me touche vraiment, c'est quand elle dit « j'ai rien eu en échange de mes efforts ». C'est-à-dire, je me suis conformé, j'ai vraiment fait respecter les règles au maximum. Je suis en train de crever financièrement. Mais, et là, j'ai plus le choix. Là, je suis au bout de tout. Là, puis, j'ai rien eu en échange de mes efforts. Alors, tout ça, ça me fait dire qu'on comprend vraiment pourquoi elle l'a fait. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de personnes qui l'aient fait. Et je pense que si ça dure, il y a plus de personnes qui vont le faire. Et il y a un truc, moi, qui est particulier, là, c'est que, en plus de tout ça, pardon, on ne peut pas faire autrement de voir qu'une réglementation, là, une réglementation qui s'appuie mur à mur, c'est certain qu'il va y avoir des injustices. Une réglementation qui aurait dit, par exemple, en dessous de X mètres carrés, hein, c'est un petit établissement, il y a 10 tables, en dessous de X mètres carrés, tu restes ouvert, en haut d'X mètres carrés, tu vas fermer. Mais ils n'ont pas eu le temps de faire des réglementations intelligentes comme ça. Ils sont allés avec des réglementations mur à mur. Une réglementation, ça prend des années à se peaufiner pour vérifier sont où les trous, sont où les tricheurs, sont où les injustices de la réglementation, puis on va l'ajuster. Là, c'est mur à mur. Et elle dit, moi, là, regarde, j'ai quatre dames âgées pour qui c'est un centre de vie, c'est un milieu de vie. Ils prennent un café, un croissant dans le coin de l'établissement. Franchement, c'est pas le gros restaurant à 300 personnes. Comment ça se fait que c'est la même règle pour tout le monde?
Mais sais-tu quoi? Je vais donner un exemple. Elle, propriétaire de commerce, comme ça, d'une pâtisserie, qui dit « J'ai toujours suivi les règles, j'ai toujours adhéré, mais là, non. » Luc, Nathalie, si vous saviez combien j'ai de messages dans ce sens-là de gens qui m'expliquent depuis 2 ans, ils ont été sur la coche, là. Ils ont respecté les règles, vacciné 3 fois, et qui, là, se faire dire que ça continue. Ils font pas des graves provocations, là. T'invites un couple à souper.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, t'invites un couple à souper. On parle pas d'un party à 50 dans une maison, on parle de 2 couples. Triple vacciné. Tu comprends, c'est difficile pour les gens d'admettre que cette campagne-là de la vaccination qui devait nous ouvrir un horizon, puis on comprend pourquoi. Mais je trouve qu'au-delà de la désobéissance, elle traduit exactement ce que beaucoup de gens vaccinés pensent. Et c'est plus discret, ça se passe dans ta maison. Elle le fait avec son commerce, mais on n'est pas loin de ça.
Si populaire. Mais c'est pour ça qu'elle est si populaire, Paul. En fait, mais elle polarise aussi, hein, parce que des gens qui approuvent totalement, puis il y en a d'autres qui disent non, on pose un geste égoïste. Il y a une nouvelle variable qui est apparue il n'y a pas longtemps, et là, je trouve que le texte de Vincent Pouliot, là, dans la presse, je ne me souviens plus son autre nom de famille, là, mais dans la presse, qui dit qui a parlé de la capacité hospitalière qui est déficiente au Québec par rapport à d'autres pays. Ça, là, dans le fond, on a tous fini par comprendre que les mesures, si elles étaient imposées de façon si rigoureuse au Québec, c'était pour sauver notre système de santé. Ça aussi, là, elle l'a verbalisé, Stéphanie. Et il y a quelque chose d'extrêmement frustrant là-dedans pour tous les Québécois. L'autre élément que tu as soulevé, Luc, qui est très pertinent, c'est le « one size fits all ». En fait, au début, rappelez-vous les codes de couleur du gouvernement. Pourquoi le gouvernement a abandonné les codes de couleur? Ça aurait pu être extrêmement pertinent parce que l'état des urgences de l'unité COVID à l'hôpital au Saguenay n'est pas le même que les hôpitaux de Montréal. Et l'autre chose, c'est que le combat que mène actuellement Stéphanie n'aura pas été vain, selon moi, parce que je crois que ces nombreuses sorties ne sont pas étrangères à l'information qui a été publiée en fin de semaine à l'effet que le gouvernement travaillait sur 2 scénarios de réouverture pour les restaurants, soit les 31 janvier et 8 février. Et selon Geneviève Lajoie, entre autres journalistes avec son collègue Journal de Québec, c'est le scénario du 31 qui est celui qui est privilégié par le gouvernement. Et je crois que le gouvernement s'est assuré que cette information soit publiée dans les journaux pour diminuer la tension parce que Stéphanie, elle a provoqué... Et elle a remué, là, elle nous a remué tout ça, là, parce que sur le plan éthique, sur le plan moral, là, son combat, ça vient nous chercher.
Oui, puis je pense que tout le monde comprend que c'est le canari dans la mine, c'est-à-dire c'est la personne qui nous dit attention, ça peut pas durer longtemps encore
exact.
Comme ça, parce que après ça, on a vu plusieurs restaurateurs prendre la parole pour dire, ben, je la comprends tout à fait, et quand tu regardes les programmes d'aide, là, bon, au début, il y a eu le 40 000 $ pour toutes les PME. Là, il y a eu des prêts. Il y a eu le paiement du loyer par le programme fédéral là, qui payait le loyer, 75 % du loyer, puis le propriétaire en payait 10 %. Fait que tu te retrouvais à payer seulement 15 % de ton loyer. Excellent programme. Mais là, maintenant, ça commence. Le reste, ce sont des prêts sans intérêt, puis on échelonné sur assez long terme, mais ça reste des prêts. Et il y a un prêt excusable, là, 10 000 $ pour couvrir les coûts des matières périssables non utilisées, des denrées périssables non utilisées, mais au bout de la ligne, là, on va arriver. Il n'y a pas eu tant de faillites que ça, mais je pense que là, on rentre dans la zone des faillites.
Tout à fait.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.